Plaisance à Castelsarrasin 93.3.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Quel bonheur de se retrouver entre 12h et 13h. On va pas mal voyager puisque dans quelques instants, on parlera d'agriculture avec Benoît Guillard et la chronique verte. Benoît Guillard qui a décidé de nous amener aujourd'hui au lycée agricole de Vic en Bigorre. On sera avec son directeur, on parlera bien sûr de l'agriculture, des enjeux, comment elle se porte dans notre belle région d'Occitanie, particulièrement peut-être dans le département des Hautes-Pyrénées et dans un lycée. Bien, on apprend ce métier et aujourd'hui comment on arrive à faire que ce métier s'apprenne et qu'on a envie de faire des vocations. Et puis dans la seconde partie, on partira dans le Gers face à la recrudescence des arnaques aux faux conseillers bancaires. Et bien la préfecture et les forces de l'ordre appellent à la plus grande vigilance. Vous entendrez le commissaire de d'Auch et puis également le directeur de cabinet du préfet d'Auch qui va nous donner bien sûr des conseils et pour éviter les pièges. Et puis dans la chronique Un jour, un livre en auteur, nous parlerons d'un livre, ceux qui se vendent le plus, c'est-à-dire les polars. 70% des livres qui sont achetés, eh bien, ce sont des livres policiers, des polars, des thrillers. Eh bien là, on partira à Tarbes, où il y a une série de meurtres à Tarbes, mais dans des endroits bien, bien précis de la ville de Tarbes, en lien avec l'immobilier. Alors, que se passe-t-il? Ça nous permettra aussi de faire la visite et la connaissance de quelques lieux emblématiques de Tarbes. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de ces bâtiments. Voilà le sommaire de Un jour, un livre en auteur. Et moi, je vous propose de partir tout de suite vers Vic en Bigorre.
Radio Présence, aux portes du Tarn, 97.9.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. J'ai le plaisir de rencontrer donc le directeur du lycée agricole de Vic, Franck Baucher. Et c'est l'occasion pour nous de l'interroger un petit peu sur sa vision, l'état des lieux de l'agriculture sur le territoire, l'attractivité des métiers autour de l'agriculture pour les jeunes qui s'inscrivent dans le lycée. Et puis aussi, en termes de formation, un petit peu la visée et puis les enjeux qu'il voit pour l'avenir des jeunes. Bonjour Franck et merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Benoît Guillard de passer par l'enseignement agricole pour les perspectives et la prospective agricole dans le département des Hautes-Pyrénées et plus largement.
Alors peut-être Franck, commencer par un petit état des lieux, un contexte, le lycée agricole, le nombre d'élèves, les filières en quelques mots.
Alors contexte, alors quand on dit lycée agricole, hein, on devrait dire établissement, puisqu'on a les trois voies de formation, la formation initiale scolaire, ce qu'on appelle le lycée, la formation initiale par apprentissage, qu'on appelle le centre de formation pour apprentis, et le centre de formation pour adultes, qu'on appelle le centre de formation continue. Donc, alors en termes d'attractivité, j'ai un peu de recul, puisque c'est ma septième année à la direction de ce bel établissement sur les Hautes-Pyrénées. C'est pas parce qu'il est situé à Vic-en-Bigorre qu'il est centré sur la plaine de Bigorre, il est bien centré sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées, que ça soit la montagne, les coteaux ou la plaine. Et donc globalement, c'est 400 apprenants en formation initiale scolaire et apprentissage. Et puis de l'autre côté, une petite centaine d'adultes, sans parler des formations courtes pour adultes. Donc on a à peu près une augmentation depuis 6 ans, depuis 6-7 ans, de 30% quand on compte formation lycée et formation apprenti. Puisqu'on est passé à peu près de 280 élèves et étudiants à 300-310, après avoir monté l'an dernier à 330. Et côté apprentissage, on est passé de 35 à 105. Alors si on veut zoomer sur l'agriculture et sur la forêt, parce qu'il faut pas oublier, ça, on a une bonne résistance et une bonne attractivité sur ces deux types de métiers, que ça soit du CAPA jusqu'au BTS. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Comment on accède au métier de l'agriculture au sens large, et j'ai envie de dire au métier de l'environnement et au métier de la forêt. On y passe par soit la filière professionnelle, donc une seconde ou un CAP, et après seconde pro, bac pro, CAP, PPREA. Donc ça, c'est la première voie. Ou alors on passe par une seconde générale et technologique et un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc on a bien les deux grandes voies, plus professionnelles et plus technologiques. Et quand on est en pro, ben on peut aller en BTS. Quand on est en technologique, on va en BTS, mais on peut aller plus loin. Et ce qu'il faut avoir en tête, on est très bien reconnu sur la filière pro, que ça soit tant agricole que forestier. Par contre, en général, les technologiques, il faut rappeler qu'on est comme à l'éducation nationale, mais on prépare le bac techno STAV, et que là, on accuse un recul par rapport à ça. Donc ça, c'est sûrement un manque de communication, parce que derrière, il y a des perspectives énormes.
Alors Franck, une question qui me brûle les lèvres, parce qu'aujourd'hui, partout, on entend la difficulté à trouver des jeunes qui seraient intéressés pour s'installer. Reprendre des fermes ou s'installer en tant qu'agriculteur. Qui sont les jeunes qui viennent dans votre établissement et quel est votre regard justement sur cette difficulté d'attractivité en termes d'installation agricole ?
Alors il faut rappeler que sur Vic-en-Bigorre, sur les Hautes-Pyrénées, on est encore bien typé lycée, ce que je veux dire agricole. Ça veut dire qu'on ne subit pas la désaffection qu'on peut avoir dans des lycées plus urbains. Donc ce que je vous dis, hein, depuis 6-7 ans, donc on a augmenté de 30% les jeunes, notamment dans le milieu agricole, qui veulent s'intéresser au milieu agricole. Et ce n'est pas forcément des fils ou des filles d'agriculteurs. Deux chiffres. Premier chiffre, il y a 30% de filles, 70% de garçons. Donc c'est pas 50-50 sur les filières agricoles, mais c'est quand même 30% de filles. Elles sont très prisées parce qu'elles font très attentionnées par rapport au matériel agricole qui coûte maintenant très cher et elles savent très bien se débrouiller. On n'a plus besoin de forces qui ne réfléchissent pas. On a besoin de forces on a besoin de personnes qui réfléchissent et qui manipulent des engins chers. Et la deuxième chose, c'est qu'on a 75% des gamins qui viennent dans ces formations agricoles qui sont hors cadre familial. Comme je dis un peu trivialement, si on attend que 2,5% de la population agricole se reproduise pour faire le renouvellement des générations, on n'y arrivera pas. Donc on est très attentif que les hors cadres familiaux soient bien en tête que maintenant, si on veut être en agriculture, on n'a pas besoin d'être fille ou fils d'agriculteur pour y être. Et on a besoin de renouveler les générations. Il y a 50% des gens qui vont partir à la retraite, soit en s'installant. Donc on peut s'installer, on peut être salarié, parce que l'agrandissement des exploitations demandera un salariat, soit dans tout ce qui est encadrement et le conseil. Donc on a vraiment besoin de gens du niveau bac pro jusqu'au niveau BTS, licence et ingénieur. Et on a mis en place un nouveau système à la fin du BTS, où il y a un concours qui permet aux jeunes de passer en classe passerelle pour intégrer les écoles agro et véto, parce qu'on a aussi besoin d'agronomes pour l'encadrement de toute la filière agricole, environnementale et forestière.
Franck, deux mots en termes de contenu, en termes de formation, et puisqu'on voit bien que notamment l'agroécologie est un élément un peu plus mis à la lumière des enjeux, des acquisitions en tout cas, le regard sur le vivant, le regard sur... la bienveillance sur ce qui peut être le vivant et au-delà de ça, il y a aussi tout ce paradoxe, ce monde paradoxal entre la nécessité de produire mieux, de produire bien et puis derrière un contexte environnemental et sanitaire très complexe.
Alors effectivement, bien avoir deux choses en tête par rapport à ce qu'on vient de dire. Un, la souveraineté alimentaire. Il faut avoir en tête que la balance commerciale française au niveau agricole et agroalimentaire va potentiellement être négative pour la première année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, il faut avoir ça en tête. On est autosuffisant qu'à 40 ou 50% dans beaucoup de filières. Donc il y a besoin de produire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et Benoît, vous avez raison, c'est de dire il faut produire propre. Il faut produire propre environnementalement et au niveau des santé des consommateurs. Donc là, l'enseignement agricole là-dessus a été depuis une trentaine d'années agriculture durable dans les années 90, puis maintenant agroécologie, avec plusieurs programmes. On va être au troisième, enseigner à produire autrement, le 1, le 2, et là on va passer au 3 pour faire comprendre aux jeunes que c'est bien économie et écologie qui sont les deux faces d'une même pièce qui permet de faire quelque chose de propre et d'économiquement viable. Alors ça, c'est pas que des paroles. On l'a mis en application sur l'exploitation agricole et forestière de l'établissement. Pourquoi ? Parce qu'on a un troupeau de vaches laitières qui, il y a encore 4 ans, ne pâturait pas. Tout était amené à l'auge. Et donc là, on a mis en place un pâturage tournant. Donc on diminue les charges, on augmente les produits. par rapport à ça, et on est vers l'autonomie alimentaire, respectueuse dans l'environnement. On est sur zéro glyphosate. On utilise un peu de phytosanitaire quand il y en a besoin, mais on est dans une démarche agroécologique et on montre aux jeunes qu'on peut avoir une agriculture et productive d'un côté. On est encore avec des vaches à 9500 kg de lait par lactation. On était à 11500, mais aussi très respectueuse de l'environnement. Donc c'est bien les deux qu'il faut jouer et on est capable de le faire. Et au niveau de la santé financière de l'exploitation, moi j'ai la chance de pouvoir vous dire que les difficultés financières qu'il y avait il y a 4-5 ans, on est de moins en moins en difficultés financières, même dans une exploitation publique. Donc c'est ça qui est très motivant par rapport à ça. Donc moi je vous donne un recul de 7 ans, tout le travail qui a été fait avec les équipes depuis 7 ans va vers une meilleure économie, une meilleure écologie.
Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Dernière question Franck, agriculture et énergie, parce que c'est un sujet de plus en plus évoqué, cette dépendance énergétique et la capacité qu'a l'agriculture à fournir de l'énergie verte. Donc, est-ce que ce sont des choses qui sont abordées dans le cadre de l'enseignement? Est-ce que ce sont dans les projets des jeunes des choses qui sont évoquées, que ce soit l'agrivoltaïsme ou la méthanisation, par exemple? Dites-nous quelques mots là-dessus.
Alors, l'énergie, avoir en tête une chose. Il y a toujours eu, entre guillemets, concurrence entre la production alimentaire et la production énergétique. Moi, j'ai une référence. La référence, elle est assez simple. C'est que quand vous regardez les schémas des exploitations avant les années 50, vous avez à peu près entre 15 et 20% de l'assolement qui était prévu pour la traction animale, donc qui était prévu pour l'énergie. Donc, tant qu'on a des exploitations qui ne dépassent pas la production énergétique à plus de 20% de l'assolement, on est raisonnable par rapport à cette concurrence-là qui existe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Benoît, vous avez raison, il y a la méthanisation. La méthanisation, alors on est bien placé au lycée agricole de Vic, puisqu'on était pionnier dans les Hautes-Pyrénées il y a 15 ans pour mettre en place une unité de méthanisation. Alors la méthanisation, ça marche très bien en injection gaz. Le business plan est rentable. En cogénération, donc en production d'électricité, et on l'a démontré au lycée agricole de Vic, ce n'est pas rentable. Le soutien fiscal qu'il y a sur l'électricité produite par la méthanisation n'est pas suffisant pour avoir un business plan positif. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté la méthanisation cogénération sur Vic. Après, il y a l'agrivoltaïsme. Donc ça, on y réfléchit fortement, puisqu'on est impliqué dans des réflexions sur de l'agrivoltaïsme sur parcelles à pâturage. Et donc ça, à un moment donné, il faut avoir en tête que l'autoconsommation d'électricité par le photovoltaïsme va permettre de diminuer les charges, où vous savez tous que l'électricité a pris, au niveau financier, une augmentation forte. Donc on est aussi là-dessus par rapport à l'énergie. On a aussi une chose, c'est que dans les méthodes et les pratiques culturales, pouvoir diminuer notamment le labour qui permet de consommer moins d'énergie fossile et qui permet notamment d'économiser du travail du sol. Donc c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour l'économie. Donc là aussi, on est vertueux par rapport à ça.
Ce sera ma dernière question, Franck. On va parler un petit peu de vision, de voir un petit peu quelle vision vous avez. On a entendu par la présidente de la région Occitanie la nécessité de poser vraiment une visée, une vision pour l'agriculture de ce territoire, soulignant que jusqu'à ce jour et à sa connaissance, ça manquait fortement de visée et de vision. C'est quoi votre avis ?
Alors la présidente de région a complètement raison dans le sens où il faut donner un cap. Il faut donner un cap par rapport à l'agriculture. Sans cap, on peut vite se perdre et se disperser et ne pas répondre aux objectifs que la société nous demande. La société, elle nous demande quoi ? Un, de produire suffisamment au niveau alimentaire. Deux, de produire à un coût raisonnable. Mais deux, de produire au niveau d'une santé positive. Donc il faut qu'on produise propre, en quantité, et d'un point de vue économique acceptable pour les populations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a la chance en Occitanie d'avoir une pluralité d'agriculture, une pluralité de produits. Et pour produire économiquement viable pour les exploitants, il faut faire de la qualité, il faut faire de la valeur ajoutée. Tout ce qui est de la production générique de produits, du lait de base, de la viande de base, ne rapporte pas suffisamment. Donc il faut être dans la transformation et dans la commercialisation. La présidente de région a raison de dire que là, il faut réfléchir à faire plus de transformation. Vous savez l'appétence que j'ai notamment par un territoire comme l'Aubrac sur le Nord Aveyron. C'est un territoire qui est capable, à partir du lait, d'avoir un business plan très positif et pour les agriculteurs et pour la coopérative, notamment Jeunes Montagnes, pour produire produire de l'aligot et de la tome d'aligot et du fromage qui permettent de rémunérer à plus de 550 euros tonne, plus de 600 euros tonne le lait au niveau des agriculteurs et faire du bénéfice au niveau d'une coopérative. Donc là, on est typiquement dans quelque chose en valeur ajoutée qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Et le consommateur ne s'y trompe pas. Il est au rendez-vous. La deuxième chose, on peut, les produits de meilleure qualité, coûtent effectivement un peu plus cher, mais il suffit d'en manger un peu moins, puisqu'ils sont mieux nutritionnellement. Donc, globalement, le panier de la ménagère peut, en termes d'économie, être au même tarif, et en termes de santé publique, être plus vertueux. Et en termes de santé publique, notamment je pense à l'obésité, je pense aux maladies cardiovasculaires, être plus vertueux aussi. Donc on a tous à gagner à manger mieux, à manger moins, en rémunérant mieux les agriculteurs.
Nous sommes à la fin de l'émission, Franck. On a bien entendu le passionné que vous êtes, l'homme investi depuis 7 ans déjà auprès des jeunes, nos jeunes, pour faire de cette agriculture, redonner à cette agriculture ses lettres de noblesse et une perspective, une vision. Donc merci infiniment. Je sais que vous allez changer rapidement de métier, mais bon, je vais vous remercier quand même pour l'implication que vous avez eue auprès des jeunes sur ce territoire et pour la fonction que vous avez portée brillamment. Merci encore Franck et puis au plaisir.
Benoît, merci beaucoup de cette interview. Alors, vous me tendez une perche par rapport aux perspectives. Je reste cohérent par rapport à mes valeurs. Vous avez compris que moi, l'agriculture, l'environnement et l'animation du territoire, le développement territoire me tient à cœur depuis 35 ans d'activité professionnelle. Donc, je vais rester dans les Hautes-Pyrénées, qui me tient à cœur. Je vais aussi faire un pas côté Pyrénées-Atlantiques, puisque je vais prendre, à partir du 1er mai, la direction du Parc National des Pyrénées, où vous avez tous compris qu'il y a aussi un projet complexe à assumer entre la préservation de la biodiversité, la préservation d'une agriculture sur le parc national et aussi les activités autres comme le tourisme. Donc on est toujours dans l'idée que, et le parc national des Pyrénées par rapport à ce dont on parlait là est fer de lance, puisque dans la marque Pyrénées et notamment dans les produits, il fait partie des deux parcs au niveau national qui sont le plus en avance. Donc il n'y a pas concurrence entre biodiversité et agriculture, mais complémentarité. Et le Parc National des Pyrénées fait partie des acteurs de ce territoire, que ce soit les Pyrénées-Atlantiques ou des Hautes-Pyrénées, à œuvrer pour une meilleure agriculture, un meilleur environnement et une activité ouverte vers l'extérieur et accueillante pour les touristes.
Merci infiniment et au plaisir, on vient d'avoir voir dans le cadre du parc. Merci Franck, à bientôt.
Voilà, Franck Baucher était interviewé par notre ami qui chronique verte de Benoît Guillard. Dans quelques instants, on va parler des arnaques aux faux comptes bancaires, aux personnes qui se font passer pour quelqu'un de votre banque. Voilà, et bien écoutez, on aura le commissaire de Doche, le commissaire de police Doche, et puis également le directeur de cabinet du préfet du Gers. Restez avec nous. Ah ben pour l'instant, on est en musique avec le groupe Saint-Similia. Et bien sûr, ce qu'on vous souhaite, c'est tout le bonheur du monde. Très belle journée.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Que l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur. chaque chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2.
En raison de la recrudescence des escroqueries dites aux faux conseillers bancaires, la préfecture du Gers et les forces de l'ordre appellent à la plus grande vigilance. Lors d'une conférence de presse, David Hicham, directeur de cabinet du préfet du Gers, et Philippe Friedrich, directeur départemental de la police nationale du Gers, ont fait un point sur ces arnaques qui se développent à grande vitesse. Premier signe d'alerte, règle d'or pour ne pas tomber dans le piège, que faire si on est victime ? On les écoute, ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
Bonjour, je suis David Hicham, directeur de cabinet du préfet du Gers. Nous vous avons invité à un point pour faire passer des messages de vigilance en ce qui concerne la recrudescence des escroqueries aux faux conseillers bancaires dans le Gers. Comme vous le savez, les escroqueries aux faux conseillers bancaires sont de plus en plus fréquentes dans notre département et le préfet du Gers en appelle à la plus grande vigilance de chacun. Les escrocs, comme vous le savez, utilisent des techniques de plus en plus élaborées. Nous pouvons tous être victimes d'un tel type d'escroquerie et dans ce cadre-là, le préfet du Gers en appelle à la plus grande vigilance, qu'il s'agisse de la vigilance pour soi-même et de la vigilance pour les autres. Quelques messages clés sont à noter et le premier message est de ne jamais communiquer ses données personnelles. Qu'il s'agisse de son code, qu'il s'agisse de ses identifiants bancaires, qu'il s'agisse de sa carte. Et en cas de doute, quand vous êtes saisi par un faux conseiller bancaire, le premier réflexe est de raccrocher et de solliciter directement votre banque. Vous avez un numéro d'urgence qui est disponible sur votre carte ou le site de la banque qui vous permet de pouvoir avoir à tout moment, un conseiller bancaire vrai qui pourra vous accompagner dans vos démarches.
Commissaire Friedrich, je suis directeur départemental de la police nationale du Gers. Donc effectivement, on a eu en début d'année une première affaire où on a élucidé, alors pas le conseiller bancaire, mais l'intermédiaire qui a pu faire transiter la somme qui a pu être obtenue indûment. On voulait déjà communiquer d'ailleurs à ce moment-là sur cette affaire parce que c'était l'occasion de faire aussi un peu le bilan de l'action des services. Mais malheureusement, durant l'enquête, on s'est rendu compte qu'il avait multiplié les ouvertures de comptes. Alors c'est notamment souvent des banques en ligne hein, parce que c'est plus difficile à traiter en termes d'investigation. Hein. C'est plus anonyme. Donc on avait détecté plusieurs ouvertures de comptes qui ont servi à peu près au même même type de transaction, donc le fonds conseiller qui appelle, qui obtient le virement ou des codes confidentiels qui permettent de provoquer la transaction. Donc là, on est clairement sur un intermédiaire, mais qui a multiplié ce type de transaction avec de l'argent qui rentre, puis de l'argent qui repart souvent sur des comptes pas forcément identifiables. Donc effectivement, le message de vigilance, il est aussi très important, parce qu'on sait que si on ne peut pas réagir immédiatement, les investigations sont extrêmement difficiles dans le temps, parce que si on n'intercepte pas ou la transaction ou le flux ou le premier vecteur des sommes qui sont détournées, souvent derrière c'est extrêmement compliqué, parce qu'on part à l'autre bout du monde. Voilà, donc on avait fait cette première affaire. On a également une seconde affaire, alors plus largement que les faux conseillers bancaires. Le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il faut être attentif à toutes les escroqueries. On peut se faire passer pour un faux conseiller bancaire, mais on a aussi pas mal les colis. Les faux colis, ça tout le monde a reçu un jour un SMS avec un colis, et comme on a régulièrement des colis en attente, il y a forcément un moment donné où ça tombe bien, ça tombe le jour où vous avez votre colis. Ah mince, le colis que j'attendais aujourd'hui ou demain. Voilà. Donc les faux conseillers bancaires, évidemment, mais la stratégie est la même: ne pas communiquer de référence de carte bancaire, ne pas communiquer de code confidentiel, et ne surtout pas tomber dans le panneau et dans la précipitation, puisque un des facteurs de réussite de ces escroqueries, c'est que les gens sont mis en panique. Si vous réagissez pas vite, alors là il va se passer des trucs, donc forcément on donne, parce qu'on se dit, pour protéger une toute petite somme, finalement on révèle des informations qui vont permettre des transactions beaucoup plus importantes. Et donc je disais, cette seconde affaire, elle est un tout petit peu différente. C'est via des boîtes mail où les gens ont réussi à obtenir des documents où ils ont falsifié les RIB et ont réussi à se faire verser soit des règlements de facture, donc pas du tout aux bénéficiaires de départ, mais sur des comptes dédiés. On a notamment dans cette affaire-là identifié une première transaction de quasiment 5000 euros, une autre transaction de pas tout à fait 1000 euros et une troisième transaction de 15 000 euros. Voilà, donc dans cette affaire-là, par contre, les individus sont renvoyés devant le tribunal judiciaire pour les faits d'escroquerie et puis diverses infractions qui sont liées à ce mode opératoire. Voilà, donc il y a un travail de fond qui est fait quand même, mais je le redis, c'est extrêmement compliqué. Si on n'intervient pas tout de suite, si on n'a pas tout de suite les bons éléments, les bons numéros, on vous appelle avec des numéros qui très rapidement n'existent plus, une référence bancaire qui très rapidement n'existe plus, et l'opération, quand elle est renouvelée par les escrocs, c'est avec un autre numéro, une autre référence bancaire. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut éventuellement mettre sous surveillance et voir s'il y a une personne identifiée, adossée à ces ouvertures de compte. Voilà, donc il faut vraiment réagir très très vite. Et d'une façon générale, on se rend compte que c'est plutôt un phénomène qui est en augmentation. Voilà, d'où ce message de vigilance. En gros, pour la DDPN, sur l'ensemble des escroqueries qui sont constatées dans l'année, divers types d'escroqueries, environ un tiers concerne les escroqueries aux fonds conseillers ou les faux colis ou vraiment celles où on essaye sur un one shot d'obtenir juste un accès ou une validation d'opération. Allô, il faut que vous validiez, parce que faut que vous rentriez votre code, parce que sinon cette opération va se réaliser. Et puis voilà, donc ce type d'escroquerie clairement représente quasiment un tiers de tout ce qui est considéré comme infraction économique et financière.
Et là, est-ce qu'on peut avoir un chiffre à peu près depuis le début de l'année?
Pour la DDPN, les escroqueries, les infractions économiques et financières, c'est environ entre 100 et 120 faits constatés par an. sur les faits qui nous sont relatés via les plaintes. Après, il y a un certain nombre d'infractions qui ne rentrent pas forcément dans les statistiques d'une certaine façon, parce qu'elles sont justement traitées par ces plateformes qui, elles, recueillent les déclarations des gens. Et voilà. Donc, même si ça nous permet d'investiguer, c'est pas forcément parce que les statistiques révèlent les infractions constatées sur le ressort de la zone. Mais une escroquerie, on ne sait pas où elle s'est passée en fait. Vous avez un coup de fil, ce n'est pas parce que vous êtes à Bordeaux, à Auch ou à Toulouse que l'infraction va être va incrémenter les statistiques de Toulouse ou de Bordeaux. Ou de, voilà. Donc il y a un certain nombre d'infractions. Mais on sait que sur le volume complet, enregistrant en statistique ou pas enregistrant en statistique, on est à peu près dans ces chiffres-là. Allez, on va dire entre 100 et 150. Parce que tout n'est pas forcément exploité, entre 100 et 150 et un tiers de ces infractions, donc entre 35 et 50 infractions concernent ce type d'escroquerie.
Et quand les victimes voient avec leur banque, est-ce qu'elles sont remboursées il faut qu'elles aient la preuve, hein. Comment ça se passe?
Alors, les dispositifs bancaires, mais je ne veux pas me prononcer pour les banques, si on comprend bien dans les déclarations de ces victimes, les banques remboursent les transactions frauduleuses, mais elles peuvent opposer aux clients, à leurs clients, la responsabilité d'avoir communiqué, par exemple, votre code, le crypto. Voilà. Donc, si vous avez communiqué des références, des codes qui permettent de valider une transaction qui est sécurisée par ces codes, il semble, mais après, ça doit être un arrangement aussi entre les banques et les clients, et peut-être en fonction du type de client ou du type d'escroquerie, mais les banques remboursent les opérations frauduleuses, sauf s'il y a une faute, même pas forcément une intention de frauder, mais s'il y a une malveillance ou si la victime s'est fait avoir. Je ne sais pas s'il y a des transactions qui sont acceptées par la banque ou pas, mais normalement, les dispositifs de sécurité sont censés pour ne pas permettre à distance de faire une opération à votre place.
Voilà, vous avez pu entendre David Hicham, directeur de cabinet du préfet du Gers, ainsi que Philippe Friedrich, directeur départemental de la police nationale du Gers. J'espère que vous avez retenu ces quelques conseils sur ces arnaques aux faux conseillers bancaires. Un grand merci à Pauline Cazier pour ce reportage et surtout pour ses bons conseils.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et après avoir été dans le Gers, on va repartir dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, précisément sur la ville de Tarbes, puisque la ville de Tarbes est le sujet d'un jour, un livre, un auteur. Diego Arrabal aujourd'hui nous parle d'un polar, et grâce à ce polar, eh bien, on va découvrir quelques renseignements ou quelques peut-être des choses que vous ne connaissez pas sur des immeubles ou des lieux stratégiques de la ville de Tarbes.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercaz.
Un jour, un livre, un auteur, j'ai vu que c'était Diego Arrabal cette semaine qui avait un livre dans les mains, donc ça veut dire qu'on va pas parler de poésie, on va parler de polar.
Mais le polar poétique, oui.
Polar poétique. Et bonjour Philippe Subercaz.
Et bonjour. Et bonjour. Bonjour Diego Arrabal. Bonjour les deux Diego. Les deux Diego, les deux Philippe. Ouais. Oh là là, j'ai mal dormi.
C'est la vieille riche, je pense. Hein. On arrive au bout de cette saison. Il est temps que les vacances arrivent, hein, Philippe Subercaz.
Je pense que faire de la radio, ça y a un peu augmenté son niveau de.
Ouais. Moi, je pense que c'est le fait de garder le casque, y compris quand il dort, c'est terrible.
D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal. Le casque serre la tête de plus en plus. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que ma tête gonfle ou est-ce que le casque diminue?
J'espère que tu diminues.
Voilà. Et puis, nous recevons aujourd'hui Luis Alfredo pour un roman policier qui s'appelle Contrat sur Adour, aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge. Donc, comme d'habitude, cher Luis, avant de démarrer les hostilités, je vais lire un petit texte que m'a...
Amicales.
Elles sont toujours amicales, les hostilités.
Vous avez le droit de quitter le studio, hein, Luis, si à un moment donné ça ne vous plaît pas. Vous quittez le studio.
Donc, Contrat sur Adour de Luis Alfredo aux éditions Arcane 17, collection Polar Rouge. Tarbes, calme préfecture des Hautes-Pyrénées. Calme ? Pas si sûr que ça. Car plusieurs assassinats mis en scène s'y succèdent. À chaque nouveau meurtre, la victime est déposée en un lieu emblématique de la ville, engloutie par les opérations immobilières, parfois très anciennes. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce un message que le tueur veut adresser à la population ? Et dans ce cas, quel lien y a-t-il entre les victimes, dont la plupart n'étaient pas nées au moment des réalisations immobilières ? La commandante Béatrice Jacques-Taest est chargée du dossier et se voit adjoindre André-Marie Aubin, un nouveau coéquipier à l'allure nonchalante, ce qui augure mal de la réussite d'une enquête déjà sous pression de la hiérarchie. À chaque nouveau meurtre, les pistes se brouillent malgré l'aide de Léon, le père de Béatrice, retraité anarchiste incollable sur l'histoire patrimoniale et industrielle de la ville. Ce trio improbable parviendra-t-il à résoudre l'affaire avant que celle-ci ne soit transmise aux enquêteurs toulousains ? Dans ce roman court, Luis Alfredo entraîne le lecteur dans une visite guidée du Tarbes d'antan. Mais ce qui semble une enquête dont le mobile se joue sur le plan immobilier va peu à peu s'attacher à un autre aspect de cette ancienne ville ouvrière et de garnison. Mais je n'en dirai pas plus. Au lecteur de le découvrir en suivant l'enquête de ce duo, trio peut-être, peu commun. Un roman divertissant, à la gouaille sympathique. Contrat sur Adour, Luis Alfredo, édition Arcane 17, collection pour la Rouge. Bonjour Luis.
Et bonjour et merci de m'avoir invité.
Bonjour Luis. Eh bien c'est un grand plaisir, je crois que c'est la deuxième que vous arrivez dans notre studio.
Oui.
Et alors, je crois que la dernière fois c'était dans l'autre studio, là on a deux studios, alors on change d'une fois sur l'autre. Alors racontez-moi tout, pourquoi Contrat sur Adour ?
Ben, l'idée c'était de faire passer... De prendre comme décor d'un polar, donc, la ville de Tarbes, ville où je réside. Et donc, pour ça, il fallait trouver une idée, bon, et pour que ce soit bien ancré dans la ville, et j'ai commencé par ce qui en ville, dans la ville est peut-être le plus connu, c'est les restes de la vieille villa, de la villa gallo-romaine qui est située à côté du Leclerc de l'Ormeau, qui a été mise à jour lors des travaux d'aménagement de ce supermarché. Et donc, un grand morceau est englouti a été recouvert par le parking, etc., mais dont un morceau a été sauvé et est à la disposition, enfin, peut être visité, si on peut dire, par tous. Et donc, de disposer le cadavre au milieu de cette, de ces vestiges. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait continuer dans cette voie, et donc j'ai disposé un second cadavre devant l'ancienne façade des thermes de Tarbes, qui a été détruit dans les années 60, qui a été rasé dans les années 60, qui étaient les thermes Perret, qui se situent à la place Perret. Alors, c'est la place Perret. Père, parce qu'il y a eu une faute d'orthographe c'est la correctrice qui m'a indiqué que ce changement de nom venait de la faute d'une faute d'orthographe, une manque d'accent, voilà, ouais. Je vais y arriver, d'accent sur la plaque de signalisation.
D'ailleurs, vous avez inséré une note de votre
page. Tout à fait, c'est elle qui me l'a dit. Et le troisième meurtre, donc je vais continuer un peu à regarder, à m'intéresser à ce qui restait. Vestiges du Tarbes d'antan, c'est un dépôt de sangsues. Et là, j'ai appris que toutes les villes, dans le passé, avaient un dépôt de sangsues qui était en fait un dépôt médical, puisque les sangsues auraient
des
vertus médicinales, oui, pour l'hypertension, en fait, toutes ces choses-là.
Oui, c'est vrai qu'à une époque, on les utilisait pour faire baisser la tension.
Ouais, je ne savais pas du tout, c'est là que je l'ai appris.
Mais parce que vous êtes trop jeune.
Ouais, merci, oui, c'est sûr. Je suis encore un enfant.
Vous savez, Louis, que Diego Arrabal est contemporain de Napoléon III.
Hein, oui. Je croyais premier, moi.
Mais vous avez raison, premier, oui, effectivement.
Je croyais.
Ça dépend des jours.
Et le dernier meurtre, qui est celui qui conclut et autour duquel se conclut l'affaire, se passe... au hall Broban, oui, qui a été réaménagé, réhabilité de façon assez sympathique, disons, et qui évoque ce qu'elles étaient avant d'être détruites, toujours dans les années 60, d'être détruites, alors que c'était des halles de type Baltar, d'après ce que j'ai lu, et je ne les ai jamais connues, qui ont été détruites au profit d'un parking, parce que le problème à l'époque, dans les années 60, c'était le parking. C'était les parkings, et puis les commerçants voulaient impérativement qu'il y ait des parkings pour que les gens puissent venir acheter. Mmh. Bon, ben, c'était l'époque, elle était comme ça. C'est aujourd'hui, avec le recul, on se dit que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a compris, mais c'est pas que toutes les villes ont compris que la vieille pierre, les vieilles pierres, les souvenirs, les vestiges, tout ça, ben, ça attirait du touriste, et en fait, ça faisait des sources, c'était une source de profit. Donc, on essaie de revenir un peu là-dessus, de sauvegarder, etc. Voilà, et tout ça, je l'ai appris. Alors ça, je tiens parce que, bon, je suis pas du tout un spécialiste de l'histoire de Tarbes, hein, mais tout ça, je l'ai appris en consultant un site qui s'appelle lucrup65.fr, qui est un site qui recense tous les monuments, enfin tout ce qui est intéressant dans le département.
C'est un site patrimonial.
Ouais, oui. Où il y a à la fois les monuments détruits, l'histoire des bains douches de Tarbes, l'histoire du tramway, etc.
L'histoire des cagots également. Oui. On trouve sur le site également l'histoire des cagots avec une image effectivement aussi du pèlerinage à Lourdes et du chemin qu'empruntaient les cargos pour venir à Lourdes. C'est un site très intéressant.
Oui. J'ai appris par exemple qu'à Lourdes, il y avait un tramway dans le temps, ce que j'ignorais, il n'en reste aucune trace. Ce qui amuse, entre guillemets, c'est que le tramway existait au début du siècle dernier, et qu'aujourd'hui on voudrait revenir au tramway, quoi. Cette espèce de boucle un peu ironique, mais bon.
C'était le cas à Bordeaux, il y avait un tramway à Bordeaux dans les années 50 qui était enlevé,
qui a été détruit.
Et puis qu'on a remis
les grandes villes et puis même des villes moyennes, il y avait le tramway à la fin du 19e siècle.
Oui, tout à fait.
Et jusque dans les années 40, certaines villes un peu avant, mais autour des années 40-50. Moi, j'ai vécu longtemps à Strasbourg. Strasbourg, dans les années 60, on a totalement enlevé les tramways, on a recouvert les voies. Ouais. Et dans les années 80-85, on a refait les voies.
On peut que le regretter, à mon avis, mais bon, ben, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était l'idée pour ancrer le polar dans la ville de Tarbes. Alors c'est une fiction, hein, il n'y a jamais eu autant de meurtres en si peu de temps et dans ces lieux. Il faut quand même.
Disons que là, on fait exploser statistiques.
À une semaine, on a fait 10 ans de meurtres peut-être, mais bon. Ouais. Voilà. Mais c'est, alors donc oui, comme tu disais, c'est. Au départ, on se pense à une affaire immobilière, puisque la première victime est un architecte qui est déposé dans l'ébauche d'un plan. La deuxième victime est, si je me souviens bien, dans l'ordre dans lequel j'ai fait apparaître, je crois que c'est un kiné qui est déposé non loin des thermes. La troisième est un médecin qui est déposé près de la sangsue, etc. Donc, au début, on pense à un problème immobilier, puis ensuite, on se dit il doit y avoir un lien entre le lieu et la profession de la victime. Et puis, bon, finalement, c'est tout autre chose. Et à un moment donné, les enquêteurs se demandent même si c'est pas quelqu'un, un peu dérangé, qui aurait décidé de se venger de la destruction des monuments anciens de la ville. Mais bon, c'est pas du tout ça. Voilà, je peux pas en dire plus.
Non, faut pas déflorer. L'histoire, parce qu'elle est intéressante. Les personnages sont intéressants. Alors, ce qui est intéressant, c'est le rapport père-fille entre Léon. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Léon? Peut-être en fonction de Trotsky, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a...
Il y a des chances.
Ah, bon, d'accord. Et donc, Léon, qui est, j'allais dire, un enseignant à la retraite. Hein, c'est un enseignant d'histoire, si mes souvenirs sont exacts, à la retraite.
Oui, de philosophie.
De philosophie, à la retraite, mais qui est passionné d'histoire locale. Oui. Qui est intarissable sur cette histoire locale, et puis sa fille qui elle est policière et qui se coltine une enquête avec pas mal de machisme autour, puisque j'allais dire en tant que policière elle est mise à mal par son patron, elle est relativement malmenée par son premier coéquipier qui
est muté, donc
dégage de suite.
Il dégage assez vite et il est remplacé donc par ce deuxième coéquipier qui vient de Pau.
Ouais.
Et qui est en délicatesse avec sa hiérarchie, mais qui a l'air assez nonchalant. Et donc, ça lui fait une grande trouille, mais qui s'avère être quand même quelqu'un de solide, malgré sa nonchalance. Et puis, il y a un personnage, là, féru de Freud, qui se balade un peu en ville, et dont on ne saisit pas très bien au départ. Quel est son rôle, et puis après ça se précise. Donc, où est-ce que vous pouvez raconter quelque chose sur ce personnage-là?
Le dernier. C'est une vieille idée que j'avais depuis longtemps, c'était de... on peut le dire, c'est le tueur.
C'est le tueur.
C'est
oui.
le tueur. Et depuis longtemps, j'avais cette idée de mettre... d'imaginer un tueur adepte, féru de Freud. Alors, il l'est, mais avec ironie, c'est-à-dire que les textes de Freud l'amusent. L'amuse beaucoup,
Pourquoi? Pourquoi?
Ben, parce qu'il ne prend pas ça au sérieux. Il ne prend pas ses textes au sérieux. Pour lui, c'est des couillonnades. Ben, c'est son opinion, hein, c'est...
C'est intéressant.
Ce que j'ai essayé de faire, je suis pas du tout un spécialiste de quoi que ce soit, hein. C'est les extraits que j'ai trouvés par-ci, par-là. Et j'essaye de faire que les citations que je glisse correspondent aux situations dans lesquelles évolue le tueur. Alors, de façon plus ou moins heureuse. Par exemple, pour prendre un exemple, c'est la première, il arrive à Tarbes, et comme tout touriste, la première chose, ou la deuxième qu'il va voir, c'est le jardin Massé. Et donc, il va au jardin Massé, il voit les animaux, tout ça, et j'ai glissé une citation où Freud se demande si les animaux ont une conscience, ou je me souviens plus exactement de la citation. Mais voilà, c'est essayer toujours de faire le transfert qu'il peut y avoir entre le tueur et la victime, etc., etc. Bon, voilà, ça m'a beaucoup amusé de créer ce personnage un peu. Et au fil des... Alors ça, c'est une idée de mon éditeur. Il fallait le rendre un peu sympathique, ce tueur, malgré le fait qu'il est détestable, c'est une évidence. Et donc, je lui ai greffé une histoire sentimentale, plus ou moins sentimentale, qui le rend, je pense, un petit peu sympathique, et qui rentre aussi en résonance sur le mobile, qui rentre aussi un peu en résonance avec le mobile de tous les meurtres.
Voilà, on ne dira rien, mais...
Oui, voilà, c'est le...
Alors moi, je ne dirais pas que le personnage... Moi, je ne l'ai pas perçu comme un personnage sympathique au sens classique du terme.
Oui,
mais je l'ai senti comme un personnage à principe. C'est-à-dire que il remplit ses contrats.
Oui, voilà.
Il ne connaît pas le commanditaire, donc il reçoit des courriers lui commanditant une exécution, donc un contrat.
Oui, c'est un travailleur consciencieux.
Voilà, c'est un travailleur consciencieux. Il fait son boulot correctement. Et puis, sorti de ça, il y a des comportements des gens qui l'entourent qui peuvent le heurter. Je pense à un moment où il rencontre une vendeuse qui se fait agresser stupidement par un espèce de malotru qui lui parle mal, qui la méprise, etc. Et mal lui en prendre à ce malotru à cause du tueur, parce qu'il n'apprécie pas trop la façon dont il s'est conduit avec cette jeune femme.
Oui, mais il faut faire attention à qui on parle, des fois.
Ou du moins à quelqu'un qui passe inaperçu. Ouais. Parce qu'en plus, le tueur, il a l'air de passer assez inaperçu, quoi.
Je suis pas un tueur, mais il me semble que c'est le béaba du tueur, quoi. Il faut qu'il soit passe-muraille, sinon s'il a un gyrophare sur la tête, il va jamais, ça sera pas un travailleur consciencieux.
Ouais, quoi. Moi je me souviens d'un personnage, tueur à gages, qui disait qu'il y avait trois grands types de tueurs. Il y avait le petit tueur, qui était embauché par un caïd ou autre, donc des gens qui avaient aucune jugeote, qui faisaient un travail de bourrin, et qui faisaient ils tuaient, mais peu importe, il y avait des victimes collatérales et tout ça. Il y avait les tueurs institutionnels. Mmh. Donc on ne dira pas dans quelles agences ils travaillent, même en France d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que aux États-Unis ou en Israël qu'il y a des tueurs institutionnels. Et puis il y a des gens libres qui sont des tueurs professionnels au sens propre du terme, c'est-à-dire que ils mettent tout leur savoir-faire et toute leur sagesse pour commettre des crimes, mais sans rien autour, quoi. C'est clair, net. Il y a une victime, il est payé pour, et ce sera cette victime-là et pas une autre.
Ceci étant, c'est un tueur de fiction. Je ne l'ai jamais rencontré.
Ah bon?
J'ai pas dû. Non, je suis pas pressé. Donc, il y a pas de souci. C'est un tueur de fiction. Hein. Donc, un tueur de fiction, comme on en voit dans beaucoup de films américains justement, ou des films français de temps à autre aussi. Bon, c'est pas un psychopathe, hein.
C'est un tueur en série, un tueur à gages.
Oui, c'est ça, c'est un tueur à gages. Quand il a fini, il est question qu'il rentre chez lui tranquillement. Il a une villa, on imagine. C'est pas dit, mais on imagine au bord de la mer et passer. Partir en villégiature, quoi.
Et attendre le prochain contrat, voilà.
Tout à fait.
Ouais, et puis passer du temps à partir du contrat, à construire tout le scénario qui va lui permettre d'aboutir à ça. Et quand on est auteur et qu'on doit construire ces scénarios, il n'y a pas parfois envie de se mettre à la place du tueur, non pas pour réaliser, mais pour penser comme lui.
Non, enfin oui, je sais pas. Parce que c'est compliqué de se mettre. Alors oui, mais ça c'est l'enjeu de c'est un peu l'enjeu, quoi. C'est-à-dire se mettre dans la tête, essayer de se mettre dans la tête de tous les personnages, hein, que ce soit l'inspecteur est une inspectrice. C'est pas un grand défi, mais c'est un petit défi que d'essayer de mettre en scène une femme. Il aurait été plus simple de mettre en scène un homme qui peut penser comme moi, quoi. Mais bon, c'est essayer de se mettre dans la tête des personnages. Mm-hmm. Donc, que ce soit l'enquêtrice, que ce soit l'adjoint, que ce soit le père, que ce soit le tueur, que ce soit, d'autres personnages qu'on croise. C'est un peu l'enjeu, quoi, d'essayer de se mettre dans leur tête et de pas les rendre tous, c'est le piège, tous semblables. Mmh. C'est-à-dire qu'ils réagissent tous de la même manière, face à des situations ou de ma façon semblable, qu'ils parlent tous un peu de la même manière ou de façon semblable. Faut essayer de leur, mais je crois que c'est le propre de tout, c'est ce que cherche tout auteur. Hein. Alors je sais pas si j'ai réussi, c'est pas à moi à le juger, quoi. Moi je l'ai écrit, je suis le plus mal placé pour juger le travail. Parce que sinon, si je me juge, je me donne le prix Nobel d'entrée. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pour dire que ça ne serait pas sérieux, quoi. C'est au lecteur à juger le résultat, quoi. Mm-hmm. Et donc à voir si c'est un jeu, justement, de se mettre à la place ou d'essayer de penser comme ou de donner vie à un personnage. Est-ce que c'est un jeu réussi ou pas? Ça, c'est tout le travail, quoi.
Et votre travail d'auteur, comment est-ce que vous le raconteriez à nos auditeurs? Comment vous faites? Comment vous êtes parti sur le premier meurtre? Et ensuite, comment vous avez, défait la pelote?
Oui, alors, je sais pas, moi, je travaille d'une façon particulière. Je fais d'une façon particulière, qui m'est propre, disons. Je suis parti sur l'idée c'était donc ce que j'ai écrit avant, et j'étais venu ici déjà il y a quelques années, se déroulait à Toulouse.
C'est vrai, oui, je me souviens.
Et celui que j'en ai écrit un autre qui avait été publié à la fin du siècle dernier, c'est dire aussi, ça fait longtemps, se déroulait aussi à Toulouse. Et ce que j'écris en numérique, hein, pour un éditeur de book, se déroule aussi à Toulouse. Mm-hmm. Et donc, là, j'avais envie de passer sur Tarbes. Et donc, l'idée, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était de l'ancrer dans la ville. Essayer de l'ancrer dans la ville. Donc, je suis parti sur sur la villa gallo-romaine. Tout est parti de l'idée est partie de là.
D'accord.
Villa gallo-romaine, un cadavre au milieu de la villa gallo-romaine. Et ma première idée, c'était, d'ailleurs, qui transparaît, je crois, dans le texte, c'était une affaire immobilière. Le cabinet d'architecte est impliqué dans une combine. Et puis, bon, comme j'avais déjà utilisé cette idée plus ou moins dans l'un des textes qui se déroule à Toulouse. Divin Toulouse, je me suis dit, bon, c'est autant refaire Divin Toulouse et l'appeler Divin Tarbes, et on en parle plus, ça ira plus vite. C'est déjà fini, donc c'est bien. Donc, après, bon, mais je me suis dit, tiens, on va mettre un autre lieu symbolique, etc. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que je n'écris pas avec un synopsis. Je sais que, par exemple, toi tu as besoin d'un synopsis, ou tu fais d'abord un synopsis détaillé, etc. J'avais rencontré Noguès, Gilbert, voilà, Gilbert, qui lui aussi m'avait expliqué qu'il faisait un synopsis, et que ce qui lui permettait d'écrire les chapitres dans l'ordre dans lesquels parce qu'il s'était très détaillé, il écrivait les chapitres dans un ordre, un peu dans le désordre, et ensuite il les lit. Moi non, c'est une autre façon de faire. Je me raconte l'histoire au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure que je construis l'intrigue. Même si je pars pas complètement dans le brouillard non plus, j'ai quand même une vague idée. Mais par exemple le dénouement est venu, je l'avais dans la tête à partir d'un certain moment. Mais le mobile de ces meurtres, ce n'est qu'à peu près au milieu du livre qui m'est apparu comme évident. Et un personnage qui n'était pas prévu pour être ce qu'il est, ce n'est qu'à partir de ce milieu qu'il est devenu ce qu'il est.
D'accord. Ouais.
Donc, bon, mais c'est. Alors, ça. Après, ça veut dire aussi qu'il faut reprendre depuis le début, réécrire, refaire cadrer, parce qu'après, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été dites au chapitre 1 qui ne cadrent pas du tout avec ce qui va être dit au chapitre 4. Donc, il faut reprendre l'écriture, etc. Bon, c'est ma façon de faire. Donc, bon, voilà, c'est. Je me raconte des histoires.
Eh bien, c'est bien. C'est le propre de l'auteur de se raconter les histoires, mais surtout de les faire partager aux lecteurs.
Le but, oui, c'est un peu ça, mais bon.
Eh bien, écoutez, là, on arrive au bout de notre émission. Philippe, vous avez des questions?
Non, je voulais juste savoir si vous partagiez la conviction de Boris Vian qui disait « Cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée ».
Ouais, je dirais « Cette histoire est... » Oui, d'accord, « Cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée ». Oui, j'avais envie de... Mais il faudrait que je réfléchisse pour retourner la parole.
On verra avec toi la prochaine émission. Alors
Oui.
J'ai passé par rapport au tueur, comme disait tout à l'heure, vous n'avez pas connu de tueur, c'est pour ça.
Tout à fait, oui.
Et donc nous étions avec Luis Alfredo pour son roman Contrat sur Adour aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge, qui vient de sortir là il y a quelques jours en librairie, même si... au moment où nous enregistrons, il était déjà sorti. Mais ça, c'est les avantages
des
éditeurs et des journalistes de recevoir avant les libraires. Merci Louis.
C'est moi qui vous remercie pour cette invitation
et
pour ce moment agréable.
Il a été partagé.
À bientôt.
À bientôt. J'espère.
Voilà Philippe Subercase, ce qu'on pouvait dire. Philippe Subercase est-il là ?
Très occupé. Ah, voilà.
Nous avons retrouvé
notre Philippe
Subercase. Je mets le casque.
Je vous écoutais religieusement et j'étais subjugué.
Mais
voilà.
Vous nous écoutez religieusement à Radio Présence.
Ça tombe c'est bien. Un peu logique.
Ça tombe bien, c'est logique.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses.
Sinon, ça devient...
Eh bien, les amis, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine,
vous voulez bien.
À la semaine prochaine, au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
présence sur le plateau de Lannemezan 92.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV poursuit son cycle de catéchèse sur Lumen Gentium. Le dernier chapitre de ce texte conciliaire porte